Je vais peut-être commencer à le présenter. Mais est-ce vraiment nécessaire de présenter Étienne Klein ? Quelle est ma question ? Bien sûr, voilà le maire. Donc, à qui je cède tout de suite la parole et puis je reviendrai sur la présentation d'Étienne en quelques instants.
Voilà. Merci, je ne voulais pas du tout vous interrompre, au contraire, simplement m'excuser parce que je suis en réunion avec le commissaire et toutes les forces de police de l'arrondissement juste en dessous et que je ne voulais absolument pas rater Étienne Klein, en particulier de votre passage en mairie. Donc, je suis très, très heureux, très fier qu'on vous ait. Je connais un petit peu, mais on peut aussi que je suis vos travaux. D'abord, je veux dire que cette conférence, on est très fiers de cette coopération qu'on a avec le Collège international de philosophie, dans laquelle s'inscrit cette conférence de ce soir. On a en principe une conférence par mois et on est très heureux, très honoré de cette coopération qu'on a voulu avoir. On est donc très touché de vous avoir pour cette conférence sur qui est légitime à parler du temps, qui est un sujet, je crois que vous avez déjà, qui est un sujet que le sujet du temps en général est celui qui percole tous vos ouvrages, mais je crois que ça fait partie d'un ouvrage sur Chronos, alors je n'ai plus le nom exact, mais des tactiques de Chronos, vous allez sûrement en parler, et je suis au regret absolu de ne pas pouvoir être là ce soir, parce que je serai en dessous, mais si jamais j'arrive à m'extraire, je reviendrai vous écouter, et donc merci d'être là, merci de faire vivre cette mairie par ces débats en général et en particulier ce soir, pour un débat que j'aurais vraiment souhaité ne pas rater, mais je ne suis pas maître du temps et mes tactiques pour essayer de déjouer les ruses de Chronos sont sans effet pour l'instant. Voilà, il faut une stratégie et pas seulement une tactique, et je regrette parce que vous m'auriez sans doute donné les clés ce soir pour arriver à maîtriser ce temps qui m'échappe en permanence. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci à vous et merci effectivement de nous accueillir dans cette mairie du 4e, cette très belle salle, pour ces grandes conférences qui ont commencé depuis déjà le début de l'année et qui ne font que le début. Les autres sont prévus à la fois pour les deux mois à venir et puis bien sûr l'an prochain à partir de septembre-octobre. Donc un grand merci. Oui, je disais donc, je pense qu'il est inutile que je présente Étienne Klein. Hein. Rares sont ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de l'entendre, depuis qu'il est régulièrement présent à la radio, sur France Inter, actuellement une émission hebdomadaire sur France Culture, hein, la conversation scientifique. Et encore plus rares sont ceux qui ne savent pas qui il est. Donc, chercheur au CEA, directeur du LARCIM, laboratoire de recherche en sciences de la matière, si je ne me trompe pas. Il joue grâce à ses talents d'écrivain, de vulgarisateur et d'orateur, bien sûr, un rôle majeur dans le paysage intellectuel, éditorial et médiatique contemporain, et donnant le goût de la science, notamment de la physique au grand public, faisant revivre magnifiquement des pans entiers d'histoire de la physique, notamment la figure d'Einstein, la création de la physique quantique, ce personnage un peu énigmatique qui est Doré Majorana, voilà, pour citer seulement quelques-uns de ses ouvrages, et donnant aussi le goût, aussi et surtout le goût de la philosophie des sciences, et donc de la philosophie tout court. Et j'aime moi particulièrement donc son dernier ouvrage intitulé Matière à contredire, où se manifeste parfaitement cette double casquette de physicien et de philosophe, où il interroge les rapports entre la physique et la philosophie. Et je crois que ça va être aussi l'objet de sa conférence ce soir, où il ne s'agit pas seulement d'interroger le temps comme objet, comme il l'a fait dans deux livres qui sont des classiques, hein, Monsieur le maire y a fait allusion, les tactiques de Chronos et le facteur temps ne sonnent jamais deux fois, mais également d'interroger la légitimité des discours tenus à leur propos, discours philosophiques, discours scientifiques. Donc voilà, on est très heureux effectivement de l'accueillir pour cette conférence au Collège international de philosophie, où on aime particulièrement les intersections, et notamment l'intersection entre philosophie et science. Et je lui laisse sans plus tarder la parole.
Merci Jérôme. Bonsoir à tous et à tous. Vous m'entendez bien ? Non, mais ça va.
Bon,
C'est un honneur pour moi de parler au Collège international de philosophie, de retrouver Jérôme Rosanvallon, avec lequel, il y a quelques années, nous avions eu des échanges et même une collaboration. Donc la question posée ce soir est une question assez simple. Tout le monde parle du temps. Toutes les disciplines académiques, scientifiques ou autres parlent du temps. Et est-ce que cette prolifération, cette promiscuité entre des discours qui sont hétérogènes, permet de mieux penser le temps, ou est-ce que ça conduit à une dispersion? Je vous prendrai un exemple. Si vous regardez les programmes des colloques qui sont organisés très régulièrement sur le temps, qui sont en général interdisciplinaires, à chaque fois, l'organisation de la journée ou des journées est à peu près la même. On fait parler un philosophe, puis on fait parler un cosmologue, puis on fait parler un physicien, puis on fait parler un biologiste, puis on fait parler un psychologue, un historien, etc. Parfois un géologue. Et à la fin, on ne tente même pas de faire une synthèse, puisqu'on a l'impression que chacun a parlé de sa discipline, et que le mot temps dans les discours prononcés a été utilisé à toutes les sauces pour désigner parfois des métaphores du temps sans que ce soit le temps même. Autre exemple qui montre que la question doit être posée, en 2012, le sujet qui a été proposé à l'agrégation de philosophie était le temps. Et comme c'est la tradition, un certain nombre d'ouvrages étaient proposés à la lecture des candidats, et en 2012, tous les ouvrages étaient des ouvrages de philosophie. Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Merleau-Ponty, Bergson, Heidegger. Je crois que j'en oublie aucun. Aucun ouvrage de physicien, aucun ouvrage de biologiste, etc. Et comme vous savez peut-être, en 2012, le sujet qui vient d'être décidé pour l'agrégation de philosophie est le temps. J'ai essayé de voir si la liste des œuvres a été publiée, la réponse est non, pas encore. Et donc, ce serait intéressant de voir si c'est toujours la même chose, c'est-à-dire si on continue à penser que le temps est une question purement philosophique, ou si les sciences, certaines d'entre elles en tout cas, sont capables d'apporter à propos de questions philosophiques concernant le temps, des éléments de réponse qui viennent contraindre, éclairer les réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Finalement, ce questionnement, il parle d'une interrogation extrêmement naïve. Je l'ai dit, toutes les disciplines parlent du temps. La philosophie parle du temps. Les physiciens parlent du temps. Depuis Galilée, même sans doute avant, et on sait bien que les progrès de la science physique sont tous dus à des nouvelles façons de penser le temps, de le décrire dans sa relation avec l'espace, avec la matière, avec Newton, avec Einstein et tous les autres. Et donc, les philosophes parlent du temps, les physiciens parlent du temps. La première question qui se pose, c'est est-ce qu'ils parlent de la même chose? Est-ce qu'ils parlent de la même chose? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Il faudrait parler d'un temps particulier qui serait l'objet de la pensée des philosophes, et d'une autre chose qu'il faudrait baptiser autrement, qui serait le temps, qui serait l'objet de laquelle les physiciens. Et si c'est le même mot, et si on ne parle pas de la même chose, alors le premier travail philosophique en l'occurrence, comme le recommande Wittgenstein, c'est de clarifier le langage. Et donc d'empêcher que la confusion soit maintenue par un nom commun qui, dans un cas et dans l'autre, ne désigne pas la même chose. Ensuite, s'ils parlent de la même chose, alors il y a une autre question qui est, est-ce qu'ils en disent la même chose? Et la réponse, vous la connaissez, c'est non. C'est nous. Heidegger ne parle pas du temps comme Einstein. Il n'en parle même pas comme Kant. Il n'en parle pas comme Husserl. Il en parle à sa façon. Et donc, si on parle de la même chose, mais qu'on en dit des choses différentes, se pose la question que nous allons débattre ce soir, c'est qui est légitime à en parler? Comment on fait pour se repérer? Est-ce que c'est le crédit du philosophe? Est-ce que c'est l'évidence de sa pensée? Est-ce que le fait que ce qu'il pense semble plus cohérent qu'un autre? Ou bien est-ce que c'est la physique qu'on va choisir au motif que, si on prend par exemple les deux dernières grandes découvertes de la physique, qui sont les ondes gravitationnelles détectées en 2016, ou bien Bode 2 détectées en 2012, les deux sont des découvertes qui nous disent des choses non pas du temps même, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas de la façon dont les physiciens représentent le temps. Les ondes gravitationnelles sont une vibration qui se propage à la vitesse de la lumière de la métrique de l'espace-temps. Le boson de Higgs est la particule qui donne aux particules élémentaires une masse non nulle, c'est-à-dire leur permettre de posséder ce qu'on appelle un temps propre. Et donc la question est posée, est-ce qu'on peut discuter du temps sans tenir compte des apports positifs que nous donne la physique contemporaine? Et je crois savoir, parce que j'avais fait une petite enquête en 2012, que si le mélange des genres n'a pas lieu, c'est-à-dire si on cantonne la philosophie à sa propre production, tant les agrégations et autres concours, c'est tout simplement pour une raison qui n'a rien à voir avec la philosophie, mais qui est purement pragmatique, que les correcteurs capables de corriger des copies dans lesquelles on parle à la fois d'Heidegger et d'Einstein n'existent pas. Alors, et donc c'est une raison pratique qui ne doit pas être retenue comme critère de jugement de la question de savoir qui est légitime à parler du temps. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer dans un premier temps, si j'ose dire, c'est que quand nous parlons du temps, nous ne savons jamais vraiment dire à quoi nous avons affaire. Il y a certaines expressions que nous utilisons qui laissent entendre que le temps serait une substance. D'ailleurs, il est désigné par un substantif. Ça veut dire qu'il y a une substance particulière qu'on appelle le temps, dans laquelle se dérouleraient les phénomènes, qui les contiendraient, ou bien qui les produiraient, ça dépend. Dans d'autres cas, les expressions qu'on utilise laissent entendre que le temps serait un fluide, le fleuve, Héraclite. Et sans y prendre garde, on a vite fait d'attribuer au temps les propriétés qu'ont les fluides, vitesse d'écoulement, etc., sans voir que le temps ne peut pas avoir les propriétés des fluides, en tout cas pas toutes. Par exemple, la vitesse d'écoulement d'un fluide, de la Seine par exemple, est quelque chose qu'on peut définir parfaitement. De là à dire que le temps a lui-même une vitesse, voire dire qu'il a non seulement une vitesse mais une accélération, il y a un pas qu'on a envie de franchir, parce que le langage charrie avec lui des a priori clandestins, mais nous devons nous retenir de le faire, puisqu'il est impossible de définir une vitesse d'écoulement du temps. Tout simplement parce qu'une vitesse est une dérivée par rapport au temps. Et donc parler d'une vitesse d'écoulement du temps, c'est supposer que le rythme d'écoulement du temps, s'il y en a un, varie par rapport au rythme d'écoulement du temps. Ce qui est absurde. Et vous voyez que dès qu'on a dit ça, on voit que notre façon d'en parler est quand même très désinvolte, et que c'est sans doute pas dans le langage ou au langage qu'il faudra faire confiance pour saisir la vérité du temps. Il y a d'autres expressions qui suggèrent que le temps serait une illusion, ou bien une hallucination, ou bien une production de la conscience, ou bien quelque chose qui serait une sorte de construction culturelle qui n'aurait aucune universalité, qu'on trouverait dans certaines civilisations, dans certaines cultures et pas dans d'autres. Lisez par exemple les ouvrages de François Julien qui expliquent que la Chine n'a jamais pensé le temps tel que nous l'entendons, c'est-à-dire abstrait, auprès duquel on peut rapporter la suite des éléments. La Chine n'a pensé que la temporalité, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, vous voyez que, à propos de simplement du statut du temps dans le langage, il y a une énorme confusion et personne, je pense, ne peut se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter, par exemple, ce qu'indiquent vraiment les horloges lorsque nous disons qu'elles donnent l'heure. Est-ce que les horloges montrent vraiment le temps? Non. Elles montrent un mouvement dans l'espace, qui lui-même est un avatar de la durée. Et donc le temps même qui produit la durée est invisible dans les horloges qui montrent un mouvement dans l'espace. Et donc, qu'est-ce que fait une montre quand nous disons qu'elle donne l'heure, qui est une question que pose Heidegger? C'est une question abyssale. Et vous voyez d'ailleurs que la familiarité de nos expressions et les espèces de ponts permanents que nous faisons entre le temps et l'espace nous invitent à considérer qu'une durée, c'est l'équivalent pour le temps de ce qu'est une longueur pour l'espace, par exemple. Finalement, une durée est autant ce qu'une longueur est pour l'espace. Quand vous faites une intégrale sur le temps ou sur le variable spatiale, c'est le même genre d'opération que vous faites. Sauf qu'il y a une différence radicale. C'est que le dx de l'intégrale est quelque chose que vous pouvez moduler à volonté. Le dt, non. Et même l'expression dt, même un intervalle de temps quelconque, ce qu'on appelle une durée est un objet qui est topologiquement absurde. Puisqu'une durée fait coexister dans sa définition mathématique des instants qui ne peuvent pas, par définition, exister ensemble. Alors que tous les points qui constituent une longueur, par exemple le côté de cette feuille, c'est une longueur, et tous les points qui la constituent coexistent sous mon regard. Ils existent ensemble sous mon regard. Une durée, jamais. Voilà. Une durée, c'est le déploiement successif d'instants qui, par définition, n'existent pas ensemble. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, après avoir semé cette confusion, en ajoutant peut-être un autre élément, qui est que nous n'hésitons pas à parler du temps comme s'il avait toutes les propriétés des phénomènes temporels. Comme s'il plagiait les phénomènes temporels. De sorte que nous n'hésitons pas à lui attribuer toutes sortes de qualificatifs par lesquels nous justifions les programmes de colloque sur le temps que j'évoquais tout à l'heure. On va demander aux philosophes de parler du temps des philosophes, du temps philosophique. Aux cosmologues, on va parler du temps, on va lui demander de parler du temps astronomique ou cosmologique. Aux physiciens, du temps, de la mécanique quantique ou des particules élémentaires. Aux géologues, du temps géologique. Aux psychologues, du temps psychologique, etc. Bref, en attribuant au temps des qualificatifs, on laisse penser qu'il existe autant de temps qu'il y a de typologie dans les phénomènes temporels. Que finalement, le temps aurait des amis d'Arlequin, il se transformerait en acquérant les propriétés des phénomènes dont il est le siège. Mais vous voyez bien que si c'est comme ça que les choses se passent, c'est-à-dire s'il y a autant de sortes de temps qu'il y a de phénomènes temporels, ou qu'il y a autant de sortes de temps qu'il y a de temporalités spécifiques liées aux différents types de phénomènes qu'on étudie, la notion de temps même devient une notion qui n'a plus aucun intérêt, qui se dissout dans ses manifestations plurielles. Et donc, le seul fait que nous autorisions à attribuer au temps des qualificatifs est peut-être le signe que la notion de temps a été, dans l'affaire, liquidée. Et donc, aucune discipline n'aurait de légitimité plus grande qu'une autre pour en parler. Toutes pourraient en parler. Chacune à sa façon. De sorte que ce concept ne serait pas un concept universel, mais un concept qui à chaque fois est régional. Il est régionalisé dans les différentes disciplines qui revendiquent un discours sur lui. Alors vous doutez bien que si je pensais que les choses sont ainsi, j'aurais pas travaillé la question du temps, avec d'ailleurs le sentiment que je serais prêt à nuancer tout à l'heure, que finalement la science qui parle du temps, c'est la physique. Alors j'apporterai une nuance tout à l'heure. Mais c'est quand même à partir du moment où le temps, en tant que variable mathématique, est apparu dans son champ théorique, que la physique est devenue puissante. La première loi physique qui porte le temps comme paramètre, c'est la loi de la chute des corps que Galilée énonce en 1604. Un corps qui tombe depuis 2 secondes va 2 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, quelle que soit sa masse. Au passage, c'est une loi qui contredit l'observation. Non, mais c'est la première loi physique, la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute et elle est indépendante de la masse des corps. Cette loi ne s'observe que dans le vide, mais je vous fais remarquer qu'en 1604, personne ne savait faire le vide et beaucoup doutaient de son existence. Donc je vous laisse réfléchir sur le fait qu'on a pu trouver une loi physique vraie, alors même que l'expérience la contredit et que les conditions qui la supposent sont impossibles à réaliser. Alors, ensuite il y a Newton, il y a Einstein, etc. Et à chaque fois, la physique gagne en puissance. Et à chaque fois, c'est grâce à des modifications dans la représentation mathématique du temps et de sa relation avec d'autres entités physiques, notamment l'espace, la matière et l'énergie, que la physique a conquis des territoires et une précision de plus en plus grande. Et donc on pourrait dire que c'est elle qui a autorité. Mais avant de le faire, il faut quand même remarquer que d'abord ce sont les philosophes qui se sont emparés de la question du temps. Et c'est eux qui, par leur antériorité sur la question et par leur production, sont a priori les plus légitimes à parler du temps. Si vous prenez les grands noms que j'ai cités tout à l'heure, Aristote, Saint-Augustin, Leibniz, Kant, Husserl, Bergson, Merleau-Ponty, Heidegger, tous ont mis sur pied des systèmes ingénieux, cohérents, qui permettent de penser le temps, soit pour lui-même, soit en relation avec la conscience, l'espace, etc. Mais si on choisit cette solution, évidemment, c'est parfaitement justifié, il n'y a pas à se justifier, c'est une solution qui d'une certaine façon s'impose. On tombe quand même assez vite sur au moins deux difficultés. La première, habituelle parce que inhérente à l'essence même de la philosophie, tient à ce que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. Vous en trouverez qui font du temps le principe du changement, d'autres l'enveloppe invariable de toute chronologie, d'autres qui diront que c'est la furtivité, d'autres diront que c'est la permanence. Tantôt, ils en feront une arène statique emplie de tout ce qui a déjà eu lieu et en attente de ce qui viendra s'y produire. Tantôt, ils le conçoivent comme un être purement physique, ou au contraire, comme un produit de la conscience. Et donc, il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix. Tout ne peut pas être vrai en même temps. Et donc, la question est, selon quels critères allez-vous faire votre choix ? Est-ce que c'est l'élégance du système proposé ? Est-ce que c'est sa séduction ? Est-ce que c'est sa rigueur ? Est-ce que c'est sa vraisemblance ? Est-ce que c'est son auteur ? Etc. La deuxième difficulté, qui est d'ailleurs corrélative de la première, et qui a été largement commentée par Francis Wolff, que vous connaissez sûrement, tient à ce que la philosophie elle-même s'est trouvée assez rapidement clivée par la question du temps, au sens où elle répartit en deux catégories étanches ces différentes doctrines. Pour les unes, le temps doit être pensé comme un simple ordre d'antériorité ou de postériorité, sans qu'aucune référence ne soit faite ni à l'instant présent, ni à la conscience de quelque observateur, ni même à sa simple présence. La seule chose qui existe, selon elle, ce sont des relations temporelles entre événements. Le temps apparaît alors comme un ordre de succession qui déploie des chronologies objectives, définitives et indépendantes de nous. Autrement dit, selon ces doctrines, les phrases que vous prononcez, qui ne mettent en scène que des chronologies, ont des valeurs de vérité, ont une valeur de vérité qui ne dépend pas du moment où vous la dites. Par exemple, si je dis Einstein est né après Newton, la valeur de vérité de cette phrase est indépendante du moment où je la dis, à condition évidemment que je la dise après la naissance d'Einstein. Et si je la répète demain, elle sera aussi vraie. Si je la répète dans 10 000 ans, elle sera vraie. En fait, elle a toujours été vraie depuis qu'elle est vraie. Si au contraire je dis il fait beau aujourd'hui, je ne mets plus en scène une chronologie, mais j'installe une référence à l'instant présent. Et du coup, la phrase que je prononce, elle est vraie, si si je la lis maintenant, mais elle sera peut-être plus vraie demain. Et donc, à la différence du premier type de phrase que j'évoquais, sa valeur de vérité dépend du moment où je la dis. Et ça, ça nous amène au deuxième type de doctrine philosophique à propos du temps, celle qui considère le temps non pas comme une chronologie, mais comme un passage, le passage d'un instant particulier, qui fait passer le présent vers le passé, ou bien l'avenir vers le présent, et avec cette idée que cette dynamique ne peut être décrite et pensée qu'en faisant intervenir la présence d'un sujet, et de sorte que le temps apparaît comme n'étant plus seulement un ordre chronologique, mais une dynamique incessante dont le moteur serait lié à la subjectivité, et donc à la présence d'un sujet présent. Si j'ose dire. Et donc, si vous vous intéressez à la philosophie, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous allez considérer que le temps dépend d'une façon ou d'une autre de la conscience d'un sujet, ou est-ce que vous allez penser que le temps est indépendant de toute conscience, de tout sujet? Si vous pensez que le temps dépend de la conscience, il y a un problème, qui est que nous savons, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, que la conscience qu'on peut rapporter à l'homme, au groupe, disons, je ne vais pas chercher à dater son apparition de façon précise, disons c'est quelques millions d'années, l'apparition de la conscience dans l'histoire de l'univers est très tardive. L'univers au moins 13,7 milliards d'années, la conscience quelques millions d'années, ça veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps. Donc si vous pensez que le temps pour passer a besoin de la conscience d'un sujet, comment a-t-il pu passer avant que le sujet apparaisse comme produit de l'histoire de l'univers? C'est une contradiction. Cette contradiction a le nom que je viens de citer, paradoxe de l'ancestralité. Je sais, Jérôme le sait aussi bien que moi, que des gens qui sont partisans de philosophie corrélationniste, qui corrèlent le temps à la conscience, essaient de les résoudre sans renoncer au corrélationnisme. Donc il y a un travail. Mais on peut aussi considérer que ce paradoxe est tellement grave qu'il invite plutôt à considérer que le temps ne dépend pas de la conscience, qu'il a une existence, disons, autonome par rapport au sujet. Sauf que là, on tombe sur un autre problème, qui est que si on considère que le temps est un être physique, alors on peut le décrire par les théories que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a une question qui n'est résolue, c'est celle des moteurs du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans le temps se trouve cachée une dynamique par laquelle tout instant présent, dès qu'il advient, se trouve remplacé par un autre instant présent qui n'est pas le même que lui, mais qui a le même statut. Bref, il y a une sorte de renouvellement incessant de l'instant présent, il y a une sorte de motricité dans le cours du temps que la physique n'a pour l'instant pas explicité. Quand Newton, par exemple, met une flèche sur l'axe des temps pour dire il y a un moteur, ça avance, il dit je ne fais pas d'hypothèse sur ce qui fait que ça avance. Autrement dit, les physiciens, en tout cas la plupart d'entre eux, ont pris acte de l'existence d'un moteur du temps, d'une dynamique qui le distingue de l'espace. Parce que vous pouvez rester présent à la même position dans l'espace, au moins dans un référentiel donné, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous restez présent à la même position dans l'espace. Vous ne pourriez pas faire la même chose dans le temps. Autrement dit, dans le temps, vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous tire, c'est ce qu'on appelle le cours du temps, dont la dynamique n'est pas explicite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des travaux là-dessus, il y en a même beaucoup, produits par des gens qui, par exemple, essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale, ou bien par des gens qui pensent des nouvelles géométries, je pense à Alain Cohn, avec les géométries non commutatives, qui fait beaucoup de conférences en ce moment sur cette question. Il prétend qu'en effet, la non-commutativité inhérente à la mécanique quantique fournit une sorte d'ordre causal qui dynamise la géométrie et engendre ce que j'appelle moi le moteur du temps. Donc vous voyez que si vous pensez que le temps dépend de la conscience, vous devez affronter le paradoxe de cette réalité. Si vous pensez qu'il n'en dépend pas, vous devez affronter le problème du moteur du temps. Donc c'est pas simple. Ensuite, ce problème, il se décline de multiples façons. Et celle que je trouve intéressante, c'est celle par laquelle Bergson, lorsqu'il est venu, en fait, non, lorsque Bergson a tenté de piéger Einstein, quand Einstein est venu à Paris, comme vous le savez, en avril 1922, Bergson reprochait, ça n'est pas compliqué, hein, mais je le caricature un petit peu, Bergson reprochait aux physiciens de traiter le temps comme s'il était de l'espace. Et par exemple, dans Durée et simultanéité, son grand livre sur la question, il se pose la question suivante: comment du successif peut-il être engendré par du juxtaposé? Par quel mécanisme des points placés sur une ligne droite traversant l'espace parviennent-ils à se temporaliser dynamiquement? C'est un peu la question de tout à l'heure. Tracer l'axe des temps comme si c'était des points dans l'espace. Donc vous les faites coexister. Kant déjà avait remarqué que tracer l'axe des temps comme on le fait tous les jours, c'est une monstruosité topologique. Vous faites coexister des instants qui ne peuvent pas coexister. Et un physicien théoricien contemporain qui s'appelle Lismolin, qui est particulièrement, disons, sensibilisé à cette question du moteur du temps, écrit des ouvrages dans lesquels il pense que le fait que le moteur du temps en physique ne soit pas explicité entrave l'avancement de la physique théorique. Je le cite: quand on représente graphiquement un mouvement dans l'espace, le temps est représenté comme s'il n'était qu'une autre dimension spatiale. C'est même un reproche aux personnes. Le temps est comme gelé. Son moteur est caché. Il est comme gelé. Il faudrait trouver une manière de dégeler le temps, de le représenter sans avoir à le transformer en espace. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver une représentation du temps par laquelle la notion même de durée se démarque radicalement de la notion même de longueur. Dès l'instant, dit Bergson, où l'on attribue la moindre homogénéité à la durée, c'est-à-dire dès qu'on considère que tous les instants d'une durée ont le même statut physique, dit-il, on introduit subrepticement l'espace. Et donc le défi, c'est: est-ce que nous sommes capables de représenter et peut-être de penser le temps sans le rapporter à l'espace? Je ne sais pas si vous connaissez, mais sans doute que oui, la conception qui a été développée dans les années 40 à partir des travaux d'Einstein sur la relativité, par beaucoup de gens, notamment par Gödel, d'une certaine façon, et par d'autres, par Hermann Weyl, c'est ce qu'on appelle l'univers bloc. L'univers bloc, c'est l'idée que, en fait, tous les événements coexistent dans l'espace-temps, de la même façon que tous les lieux coexistent dans l'espace. Par exemple, nous sommes à Paris. Paris accueille notre présence. Nous sommes présents à Paris. Ou, parce que c'est symétrique, Paris est présent là où nous sommes. On peut dire comme ça aussi. Mais alors que nous sommes présents à Paris, d'autres villes que Paris, Marseille, Strasbourg, Brest, existent autant que Paris. L'idée de l'univers bloc, c'est de dire, mais tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs, existent en même temps, dans l'espace-temps. Donc les événements du passé sont là, les éléments du futur sont là, et ce qui définit les événements que moi j'appelle présents n'est pas une présence qui serait leur propriété, mais est une conséquence de ma propre présence. C'est ma présence dans l'espace-temps qui détermine ce que j'appelle le présent. Et donc, dans cette conception, le moteur du temps, c'est pas la conscience de l'observateur, c'est peut-être que l'observateur, qu'il ait une conscience ou pas, peu importe, il suit dans l'espace-temps ce qu'Einstein appelait sa ligne d'univers, et c'est le mouvement de l'observateur selon sa ligne d'univers qui temporalise pour lui un espace-temps qui n'a pas d'histoire. Autrement dit, c'est le sujet en tant qu'il appartient à un référentiel qui, par sa propre dynamique dans l'espace-temps, engendrerait l'impression qu'il a que le temps passe. C'est un peu comme une partition de musique ou une pellicule de film. Dans une pellicule de film, toutes les images qui seront projetées coexistent dans la bobine. Et c'est seulement au moment où on projette la bobine que cette juxtaposition d'images qui coexistent dans l'espace se temporalise en une succession par laquelle chaque image n'apparaît qu'une fois. On peut dire la même chose d'une partition de musique, d'autres analogies de ce type. Et donc, on pourrait se dire, tout ça est quand même très confus. Vous êtes d'accord? C'est quand même compliqué. Et on finit par complètement perdre de vue de quoi on parle. Quelle est cette chose qu'on appelle le temps dans toutes les phrases où j'ai inséré le mot dans les minutes qui viennent de vous citer. Alors, on trouvera des gens qui défendent l'idée que le temps, c'est simplement un mot. C'est un mot, c'est un simple vocable qui n'a pas un sens qui lui soit donné par une puissance indépendante de nous, de sorte qu'il pourrait y avoir une recherche quasi scientifique sur ce qu'il veut réellement dire. Le sens de ce mot ne serait en somme rien d'autre que les façons que nous avons de nous en servir. Il n'y aurait pas à se poser la question d'une vérité qui détiendrait ou masquerait. Il s'agit seulement d'interroger ce que nos phrases tentent de signifier vaille que vaille. Et donc on fait un travail critique du langage, un peu comme celui que recommande Wittgenstein. On critique nos façons de dire. On essaie de déceler la métaphysique implicite que transporte notre langage quotidien pour débusquer ses a priori, pour démasquer les jeux de langage, etc. Et en fait, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas du tout. À cause notamment d'une remarque assez puissante qui a été proposée par Paul Valéry. C'est que le mot « temps », il dit la même chose du mot « vie » d'ailleurs, dans le même article. Le mot « temps », dès qu'on l'extrait du flux verbal dans lequel on l'a inséré, eh bien, il se transmute immanquablement en mystère à son âme. Autrement, dès qu'on sort le mot « temps » de la phrase, il devient un mystère. Ce qui permet de conclure que le sens du mot « temps » dans une phrase n'est pas un sens qui porte lui-même, c'est un sens qui est déterminé par le flux verbal dans lequel on l'a inséré. Il n'a pas un sens propre, il a un sens dérivé de l'endroit où on l'a placé dans une phrase. Alors je vais citer ce petit texte de Paul Valéry que je trouve magnifique, dans lequel il montre que, donc, si on sort le mot temps de la phrase, il perd toute signification et nous fait plonger dans l'abîme. Voilà ce qu'écrit Paul Valéry. Vous avez certainement observé ce fait curieux que tel mot, qui est parfaitement clair quand vous l'entendez ou quand vous l'employez dans le langage courant, et qui ne donne lieu à aucune difficulté quand il est engagé dans le train rapide d'une phrase ordinaire, devient magiquement embarrassant, introduit une résistance étrange, déjoue tous les efforts de définition auxquels vous... déjoue tous les efforts de définition aussitôt que vous le retirez de la circulation pour l'examiner à part et que vous lui cherchez un sens après l'avoir soustrait à sa fonction momentanée. Il est presque comique de se demander ce que signifie au juste un terme que l'on utilise à chaque instant avec pleine satisfaction. Par exemple, je saisis au vol le mot « temps ». Ce mot était absolument limpide, précis, honnête et fidèle dans son service, tant qu'il jouait sa partie dans un propos et qu'il était prononcé par quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Mais le voici tout seul, pris par les ailes. Il se venge, il nous fait croire qu'il a plus de sens qu'il n'a de fonction. Il n'était qu'un moyen, et le voici devenu fin, devenu l'objet d'un affreux désir philosophique. Il se change en énigme, en abîme, en tourment de la pensée. Bon, je pourrais dire les mêmes choses à partir de textes de Yankelevitch, mais comme on a peu de temps, on va aller assez vite, et en venir justement à la physique. En se disant finalement, le mot « temps » dans les phrases dans lesquelles on l'insère est victime d'une polysémie fulgurante. Il y a des phrases dans lesquelles il pourrait être remplacé par d'autres mots, comme « succession »,« simultanéité », »,« durée », »,« devenir », »,« changement », »,« vitesse », »,« accélération »,« argent », même « mort », etc. Et donc ça fait trop de sens possible pour un seul mot. Il faut donc procéder à ce que Paul Valéry, dans le même texte que j'ai partiellement cité, appelait un nettoyage de la situation verbale. Et la question, c'est à partir de quelle base, théorique ou autre, on va pouvoir procéder à un travail critique du langage. On voit que le langage lui-même est trop confus, et qu'on ne pourra pas compter sur lui si on ne part pas d'une base critique qui lui est en partie extérieure. Alors, le réflexe qui a été le mien, c'est de dire que la bonne base critique, c'est la physique. Le langage naturel de la physique, depuis Galilée, surtout depuis Newton, ce sont les équations. Les équations de la physique contiennent le paramètre temps. Si on était capable d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler, on aurait un moyen assez sûr, en tout cas aussi sûr que sont les équations de la physique, de critiquer notre façon de le dire. On prend les équations de Newton de la mécanique, par exemple. Quel statut ces équations accordent-elles au temps ? Et on voit assez rapidement que le paramètre T des équations de Newton est un paramètre qui n'a aucune des propriétés qu'on attribue au temps. Par exemple, il ne dépend pas de ce qui se passe dans le temps. Quoi qu'il se passe dans le temps, dit Newton, ça n'affecte pas le temps. Le temps est homogène, dit-il, c'est-à-dire qu'il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Et ce truc assez incroyable d'ailleurs, qui n'est pas assez interrogé par les professeurs de physique quand ils présentent les équations de Newton, c'est que le paramètre T qu'on met dans les équations, il a quand même une propriété absolument incroyable. C'est qu'il ne dépend pas du temps. C'est-à-dire, Newton vous dit, le paramètre T, c'est-à-dire le temps, est peut-être la seule chose dans l'univers qui ne dépend pas du temps. Incroyable. Paramètre temps, il est homogène. C'est-à-dire que tous les instants du temps ont exactement le même statut physique. Un instant d'il y a 10 000 ans a la même nature physique, si j'ose dire, que l'instant présent, ou qu'un instant qui adviendra dans 10 000 ans. Le passage du temps n'affecte pas la nature du temps. Rien de dire ça, ça fait du temps de Newton un temps qui se distingue de nos façons de dire le temps. Par exemple, c'est un temps qui se distingue complètement du changement ou du devenir, qui n'a rien à voir avec tout ça. En fait, on comprendra bien plus tard, c'est une physicienne allemande qui s'appelle Emmy Noether qui l'a compris en 1918, grâce à un théorème qui porte son nom, c'est que le fait que le temps soit invariant par translation, c'est-à-dire le fait que le temps ne change pas au cours du temps, a comme conséquence la conservation de l'énergie. Et en fait, traduit le fait que les lois physiques, les lois de la physique, sont invariantes par translation du temps. C'est-à-dire que quand vous écrivez une loi physique, elle est vraie de la même façon pour tous les instants qui peuvent être concernés par elle. Ça veut dire que les vraies lois physiques, je ne suis pas sûr qu'on les connaisse. Je parle là des lois de la physique, celles qu'on trouve dans les ouvrages de physique. Mais ces lois-là ne changent pas au cours du temps, elles n'évoluent pas alors même que l'univers évolue. C'est en gros ça que veut dire le fait que le paramètre temps est homogène. Et donc, depuis que Newton a introduit cette variable dans ses équations, et qu'il a choisi de l'appeler temps, c'est à partir de ce moment-là que la physique devient puissante, devient efficace. On peut prédire beaucoup mieux qu'avant les éclipses. On peut même prédire l'existence de nouvelles planètes. Souvenez-vous, au début du 19e siècle, on commence à bien mesurer la trajectoire d'Uranus et on voit que cette trajectoire ressemble à celle calculée par Newton à partir des lois de la gravitation. Mais il y a un petit écart. Et les astronomes, en tout cas la plupart d'entre eux, se disent que cet écart ne peut pas être dû au fait que les lois de Newton seraient fausses. Parce qu'elles sont vraies. Donc ça doit être dû à une planète qu'on ne connaît pas, qui par son effet gravitationnel sur Uranus explique le petit désaccord. Ils calculent la trajectoire de cette planète, et l'un d'entre eux, un Allemand qui s'appelle Gall, finit par la détecter dans le ciel nocturne. Elle sera baptisée Neptune. Neptune, la première planète découverte mathématiquement, comme dira la presse, dès le lendemain. Les équations Newton permettent de détecter de nouvelles planètes. C'est quand même pas rien, ça. Et il s'agit encore là que de prédire un type d'objet déjà connu, on connaît déjà les planètes. Il s'agit simplement d'ajouter un membre dans la famille. Mais par la suite, on a prédit, grâce à des équations, les quarks, les bosons intermédiaires, le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles, qui sont des sortes d'objets dont on ne connaissait pas l'équivalent auparavant. Les ondes gravitationnelles, c'est des objets inédits. On n'en avait jamais vu. Et on ne les avait jamais pensés avant que les équations d'Einstein permettent de les décrire. Le boson de Higgs, c'est une particule qu'on appelle scalaire, qui est donc décrite par un champ scalaire. C'est la première fois qu'on connaît une particule scalaire. Il n'y en a pas d'autre. C'est quand même impressionnant de considérer que la physique n'est pas simplement une sorte de sténographie du réel qui permettrait de dire les régularités du monde de façon économique. La physique agit comme un treuil ontologique, c'est-à-dire permet de prédire l'existence de nouvelles sortes de choses. Je dis ça pour le cas où il y aurait des relativistes radicaux dans la salle, qui pensent que tout est affaire de construction sociale, etc. C'est pas une construction sociale qui a fait clic dans les détecteurs du LHC qui ont vu le boson de Higgs. C'est pas nous. Il y a quelque chose qui correspond à ces réalités. Je ne dis pas que la physique décrit le réel, mais vous ne pouvez pas comprendre son efficacité sans penser qu'elle dit quelque chose qui a à voir avec le réel. Sinon, parce que évidemment, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais si vous croyez qu'elle n'a rien à voir avec le réel, alors ça veut dire que vous croyez au miracle permanent. À chaque fois qu'un résultat d'expérience coïncide avec ce qui avait été préalablement calculé, s'il n'y a aucune réalité derrière qui explique cette coïncidence, c'est qu'à chaque fois, un miracle se produit. À chaque fois, ça marche. Et donc, le relativisme radical, disons, j'ai rien contre le relativisme relatif, mais le relativisme radical est une théorie du miracle. Bon, je ferme la parenthèse avec ça. Et donc, il y a quand même une question qui se pose et qui m'oblige à être nuancé. En tout cas, plus que quand j'étais jeune. La question, c'est comment se fait-il que Newton ait décidé d'appeler temps le paramètre T qui apparaît dans ces équations, alors que ce paramètre n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps. S'il a appelé temps, c'est qu'il l'a reconnu. Et pour reconnaître quelqu'un ou quelque chose, il faut déjà le connaître. Voilà une question que je ne m'étais jamais posée. Et donc je suis allé faire quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est, je vais lire les Principia de Newton. Alors, c'est un livre très, très difficile à lire, puisque Newton ne s'appuie que sur la géométrie, pas sur l'algèbre, encore moins sur le calcul différentiel. Pas sur l'algèbre pour une raison assez incroyable, c'est que l'algèbre avait mauvaise réputation au motif qu'il cache les raisonnements. Vous avez l'expression A, qui a fait un calcul, ça devient B, mais la transformation de A en B est cachée par l'algèbre que vous utilisez. Alors que la géométrie, ben, elle montre. Les démonstrations se voient intégralement. Et c'est pour ça que Newton utilise la géométrie, ce qui rend son livre illisible, puisque les termes de géométrie qu'il utilise sont inconnus des gens. Donc c'est très dur. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il introduit le paramètre T, à ma grande déception, il ne se justifie. Il dit T, c'est le temps vrai, indépendant des phénomènes, etc. Mais il ne dit pas par quoi, par quel stratagème intellectuel, il décide de reconnaître dans ce paramètre ce qu'on appelle par ailleurs le temps. Et donc on peut imaginer une histoire un peu différente, contrefactuelle, dans laquelle Newton aurait décidé d'appeler ce paramètre autrement que temps. Il aurait appelé truc ou je ne sais pas quoi. Et vous voyez que s'il l'avait appelé truc, eh bien, on n'interrogerait pas les physiciens sur le temps. On les interrogerait sur truc. Voilà. Et donc la question qui fait qu'on doit être prudent, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cet arbitraire sémantique par lequel Newton a fixé le vocabulaire ? En disant le vrai temps, c'est T. Est-ce que le temps de Newton est un temps amaigri, incomplet, idéalisé, ou est-ce que c'est le vrai temps de Newton ? Alors évidemment, la question se complique par le fait que nous savons aujourd'hui que le temps de Newton n'existe pas. Il est mort dans d'atroces souffrances. En 1905, à cause d'un chien. Le temps de Newton est universel, est absolu, ça c'est vraiment fini. Et le temps, il est tel que Einstein le décrit dans sa théorie de la relativité. Et donc il a un autre statut. Ce que nous dit Einstein, c'est non pas qu'il existe un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépendra de l'observateur, qui est pourtant la phrase par laquelle on résume souvent la relativité. Einstein dit simplement, il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Moi j'ai mon temps propre, vous avez votre temps propre. Il se trouve que quel que soit mon trajet dans l'espace, si je prends le train, un avion, où que j'aille, lorsque je vais vous retrouver, ma montre sera à nouveau synchronisée avec la vôtre, de sorte que nos temps propres coïncident. Quel que soit nos déplacements dans l'espace, nos temps propres coïncident, ce qui donne l'impression de tous vivre dans le même temps propre. Mais Einstein montre que ça, c'est une illusion d'optique qui vient du fait que nos mouvements relatifs dans l'espace se font, même si nous prenons une navette spatiale, à des vitesses qui sont ridiculement petites par rapport à la vitesse de la lumière. Mais si nous allions à des vitesses non ridiculement petites par rapport à la vitesse de la lumière, à chaque fois que l'un d'entre nous s'éloignerait d'un autre à grande vitesse, puis le retrouverait, les montres qui étaient synchronisées au départ se retrouveraient désynchronisées. 1990, ce que montre Einstein, c'est qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Et que rien ne peut affecter le temps propre d'un observateur. Pour une raison très simple, c'est qu'il est impossible d'être en mouvement par rapport à soi-même. Tout bête. Vous êtes toujours immobile par rapport à vous, et donc votre temps propre ne peut pas être affecté par votre mouvement par rapport à lui, puisque vous êtes immobile par rapport à lui. D'accord ? Donc même si vous êtes accéléré, même si vous partez très loin, même si vous voyagez à très grande vitesse, ça n'affecte nullement votre temps propre. Je vous dis parce que moi j'ai beaucoup d'étudiants qui ont lu des vulgates sur la relativité, à savoir celle que je rappelais tout à l'heure, la vitesse des courants du temps dépend de la vitesse de l'observateur, et cette phrase les conduit à penser que s'ils partaient dans une fusée à très grande vitesse, comme dans Star Wars, ça affecterait leur temps propre, leur rythme cardiaque, le temps qu'il leur faudrait pour lire un livre. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Si vous voyagez dans l'espace, par rapport à moi, à une vitesse qui est la vitesse de la lumière moins epsilon, bah vous serez à vitesse nulle hein, par rapport à vous, donc il ne se passera rien. Par contre, pour moi, qui recevrai des messages que vous m'envoyez, à l'intervalle de temps entre deux réceptions de deux messages successifs sera beaucoup plus long que pour vous qui les émettez. C'est ça la différence. Et donc, le temps de Newton est mort, et on peut ensuite se demander, c'est la question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler ? Et là, ça ouvre un champ énorme, énorme, qui va dépendre évidemment de la théorie que vous prenez comme référence. Si vous prenez la mécanique de Newton, vous avez un certain type de message. Si vous prenez la relativité restreinte, un autre type. Si vous prenez la relativité générale, c'est encore autre chose. Si vous prenez la physique quantique, la théorie quantique des champs, etc. Bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la physique n'est pas univoque sur le temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les théories physiques sont contraintes par le principe de causalité. Et ce principe de causalité se décline dans les différentes théories, d'une façon qui dépend de la théorie. Alors, chez Newton, ça dit que le temps ne peut pas être cyclique. Chez Einstein, ça dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière quand on est une particule. En physique des particules, la causalité, qui dit simplement que vous ne pouvez pas modifier le passé, implique l'existence de l'antimatière, etc., etc. Et donc, vous voyez que la physique apporte, par son efficacité, prise au sérieux, des contraintes très fortes sur ce que nous pouvons dire du temps. D'accord ? Mais la question est celle que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'elle est vraiment légitime ? Voilà. Est-ce qu'elle est vraiment légitime ? Alors, vous pourriez dire, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Il y a bien un truc qui s'appelle T, on peut l'appeler comme on veut. Mais l'efficacité de la physique vient du fait que ce paramètre-là a, dans les équations de physique, une place qui correspond à quelque chose que la réalité semble comprendre. Alors, en fait, c'est, à mon avis, pas si simple pour la raison suivante. Peut-être vous avez vu paraître ces derniers temps des ouvrages rédigés par des physiciens éminents qui disent que le temps n'existe pas, etc. Et j'ai l'impression qu'on retombe sur le même problème que celui qui se posait le temps de Newton. Puisque pour dire que le temps n'existe pas, il faut déjà savoir ce qu'il est pour devenir capable de reconnaître dans des équations qu'il n'y est pas. Autrement dit, pour dire qu'il n'existe pas, il faut déjà le connaître. Et le connaissant pourra dire qu'il n'a pas de contrepartie dans telle ou telle formalité. Okay. Par exemple, j'ai un très bon ami, que connaît bien Jérôme, qui s'appelle Marc Lachapelle, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. On n'est pas vraiment d'accord, parce que lui part de l'idée que la relativité générale, c'est la bonne théorie, c'est pas ce qu'il tire du tout. Et à partir d'elle, il peut, par une suite de raisonnements syllogistiques, conclure que le temps tel que nous le pensons n'existe pas parce qu'il n'a pas de contrepartie dans les équations aristotéliennes. Or, vous savez bien que la relativité générale ne peut pas être une théorie du tout. Pour une raison tout bête, c'est qu'elle ne décrit que la gravitation. Donc elle est incomplète. Dans l'univers, nous le savons, il existe d'autres interactions. L'interaction électromagnétique, les forces nucléaires, il y en a deux, la faible et la forte, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein, qui sont décrites par la physique quantique. Et donc, on ne peut pas parler de l'univers comme s'il était entièrement décrit par la relativité générale. De sorte que même simplement conclure le temps n'existe pas, alors même que nous n'avons pas de théorie qui permette de décrire ensemble les cas d'interaction, c'est commencer par la fin. Mais vous voyez que quand même il y a ce problème quand on a l'impression que le temps a disparu d'un jeu d'équations. Bon, pour ceux d'entre vous qui connaissent, il n'y a pas d'équation de Wheeler de Witt, il y a des équations qui essaient d'unifier la physique quantique et la relativité générale, comme la théorie des supercordes ou la gravité quantique à boucle. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous pouvez avoir l'impression, en regardant les équations ou les formalismes associés à ces théories, que ce que vous appelez d'ordinaire le temps n'est plus là. Très bien. Mais est-ce qu'il ne reste pas de la causalité, une sorte d'ordre entre les événements? Est-ce que le temps ne s'est pas réfugié derrière d'autres oripeaux, tels que la notion de variable dynamique, la relation d'ordre entre événements? Bref, pour pouvoir certifier que le temps s'est bel et bien évaporé dans les nuées, il faut d'abord dire précisément quelle est cette chose qu'on appelle le temps et dont on assure qu'elle a pris la tangente de la réalité, et également expliquer d'où vient que notre esprit a pu créer semblable une fiction et croire à pareil fantôme. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire le temps n'existe pas, mais alors il faut expliquer pourquoi on a l'impression de vivre dans le temps, d'être victime du temps qui passe, d'être confronté à une temporalité irréductible qui nous amène à la mort. Enfin, ça ne clôt pas la question. Et donc, ma conclusion, et pour ouvrir la discussion, elle sera assez simple. Si Newton a eu raison d'appeler T temps le paramètre T, alors il faut prendre au sérieux non pas la physique de Newton qui a été dépassée, mais la physique contemporaine, et observer qu'elle produit ce que Maurice Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire elle produit des résultats qui viennent contraindre, modifier la façon philosophique de répondre à des questions philosophiques, en ouvrant des nouveaux chemins de pensée. Ou bien le choix de Newton est contestable, était en partie arbitraire, et à ce moment-là, on doit bien admettre que toute forme de discours alternatif à celui de la physique sont possibles, et on a donc une sorte de qui nous est donné pour parler du temps comme ayant autant de formes qu'il y a de temporalités différentes. Simplement, et pour finir, moi il me semble quand même que la physique a démontré, je parle de démonstration, que le temps, si on a eu raison de parler de temps physique, se distingue radicalement du devenir. C'est-à-dire le temps et le changement sont deux choses complètement différentes. Je n'ai pas le temps de démontrer, mais je montre simplement par une analogie ce que je veux dire par là. Pensez à l'œuvre d'un peintre polonais qui s'appelle Roman Opalka. Je pense que vous le connaissez. C'est un monsieur qui est né en Pologne entre les deux guerres, qui a subi plusieurs sortes de traumatismes, notamment... Il était en fait très pauvre, dans une ville d'une seule pièce, un petit village en Pologne. Tous les matins, ses parents le laissaient seul dans la pièce unique de leur habitation, en tête-à-tête avec une horloge. Et un jour, elle s'est arrêtée. Et il raconte qu'il a été britannique, il doit avoir 7 ou 8 ans. Il a pensé que l'arrêt de l'horloge signifiait l'arrêt du temps, qui lui-même signifiait la fin du monde. Et ensuite, il a été déporté, donc marqué sur la peau par une suite de chiffres. Et en 1964, alors qu'il vivait à Varsovie, il avait rendez-vous avec sa femme dans un café, il était en retard, il a été pris de panique à nouveau. Et à partir de ce jour-là, il a produit la même œuvre tous les jours, qui consistait simplement à peindre sur une toile noire la suite des nombres entiers. 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois qu'il terminait une toile, qui nous prenait plusieurs jours, il se photographiait, toujours dans la même position, avec le même appareil, dans la même tenue, le même éclairage. Et il a fait ça pendant 40 ans, jusqu'à sa mort. Mais cette œuvre, moi j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, il ne s'est jamais intéressé à la physique, mais cette œuvre manifeste une séparation entre deux sortes d'irréversibilité que notre expérience du temps et notre langage sur le temps confondent. La première irréversibilité, c'est celle du temps même. C'est-à-dire que tous les instants du temps sont des instants inédits. Le temps ne peut pas être cyclique à cause de la causalité, etc. Donc tout instant qui advient est un instant qui advient pour la première fois et que vous ne reverrez plus. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours du temps. Il est contraint par la causalité et il est l'expression de l'irréversibilité du temps même. Il est en quelque sorte la conséquence de l'impossibilité des voyages dans le temps. Quand je parle de voyage dans le temps, je parle de voyage dans le temps propre. Vous pouvez voyager dans le temps de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas voyager dans le temps propre, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, il y a la suite des photos de ce monsieur, pris à des temps différents, donc il a une apparence physique qui évolue, les cheveux blancs qui apparaissent, vous pouvez voir ça sur Internet, des rides, etc. Et ça, c'est la manifestation d'une autre irréversibilité qui n'a rien à voir avec celle du temps, qui est ce qu'on appelle la flèche du temps. La flèche du temps, c'est l'irréversibilité non pas du temps même, mais c'est l'irréversibilité des phénomènes temporels. Quand vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Et une fois que vous l'avez fait, c'est fichu. Vous pouvez attendre tout ce que vous voulez, vous ne retrouverez jamais dans le futur l'état initial de ce système, avec du lait d'un côté, du café de l'autre. Autrement dit, le cours du temps, c'est l'impossibilité de retrouver dans le futur un instant déjà traversé dans le passé. La flèche du temps, c'est tout à fait autre chose, c'est l'impossibilité pour un système physique de retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. Et il se trouve que, en physique, les équations fondamentales, qu'il s'agisse de mécanique classique, de mécanique quantique, de relativité, etc., sont des équations qui vous disent il n'y a pas de phénomène irréversible. Tous les phénomènes doivent être réversibles. Autrement, si un système peut aller de l'état A à l'état B, il peut aussi aller de l'état B à l'état A. Voilà ce que disent les équations pour lesquelles le temps est un paramètre réversible. Ce qui contredit l'observation. Et donc ça, c'est un énorme problème au 19e siècle. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de la réversibilité. Et ça a été tout un travail qui n'est pas complètement achevé, au dire de certains, que de comprendre comment des équations physiques réversibles, c'est-à-dire qui vous disent il n'y a pas de phénomène irréversible, peuvent néanmoins expliquer les phénomènes irréversibles. Ça s'appelle le problème de la flèche du temps. Et le truc, c'est que des équations réversibles sont capables de décrire un monde physique moins symétrique qu'elles. C'est-à-dire que des équations qui sont réversibles sont capables de nous permettre au prix d'une interprétation, de comprendre d'où provient l'irréversibilité qui se manifeste dans notre monde physique, pourtant décrit par des équations universelles. Il me semble que cette séparation entre ces deux formes d'irréversibilité, entre le temps et le devenir, si vous préférez, elle est tellement nette en physique qu'elle correspond à une découverte philosophique négative. Et je pense que les philosophes devraient l'entendre comme étant presque la preuve que le temps et le devenir ne se confondent pas. Ils s'accompagnent, mais ils ne se confondent pas. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très riche conférence qui montre justement quel est l'enjeu justement de la philosophie par rapport à la physique, c'est-à-dire vraiment prendre en compte toutes les contraintes, découverte philosophique négative, toutes les contraintes impliquées par la... Alors la physique est peut-être la difficulté aujourd'hui, pour résumer votre propos, c'est que toutes ces contraintes semblent contradictoires. Les contraintes impliquées par la relativité restreinte, la relativité générale, et celles impliquées par la physique quantique ou la mécanique quantique, la théorie quantique des champs, et du coup l'unification qu'on essaye de faire entre les deux, apportent autant d'éléments qui semblent justement se contredire et qu'il est très difficile de penser ensemble pour repenser la question du temps. Car le lien entre physique et philosophie sur la question du temps comme sur autre chose, il me semble être simplement la philosophie a à faire la métaphysique correspondant à un certain état de la physique. C'est ce qu'a fait Kant par rapport à Newton ou par rapport à Galilée et Newton. Et est-ce que les physiciens, est-ce que vous seriez d'accord, peut-être que les physiciens aujourd'hui, quand ils veulent dire que le temps n'existe pas, etc., ils ne le rentrent pas dans les équations, c'est pas qu'ils supposent une image du temps, etc., ils veulent simplement dire que le temps newtonien, je pense que c'est pour résumer le propos de votre propos, le temps newtonien, avec ses propriétés, non seulement le temps absolu, mais d'autres propriétés de ce temps newtonien, n'existent pas, enfin, il faut se passer de ses propriétés. Donc la physique s'explique juste avec un état passé d'elle-même, et la philosophie doit en rendre compte aussi.
Je suis d'accord, mais dire le temps newtonien n'existe pas, c'est pas la même phrase que de dire le temps n'existe pas.
Oui.
Le temps newtonien n'existe pas, on le sait depuis plus d'un siècle.
Oui, mais il y a encore des propriétés qui subsistent et qui
sont justement mises en question. Le temps est relatif. Alors on pourrait dire ce qui est relatif n'existe pas. Mais ça va très loin, ça, parce que par exemple, à Paris, là où nous sommes, je peux définir la notion de verticale. Verticale, c'est une droite qui passe par le centre de cette pièce et qui passe par le centre de la Terre. Bon. Si je vais à Nantes, je peux aussi définir une verticale. C'est pas la même. Donc la verticale se trouve relative, elle est relative au lieu où je la situe. Pour autant, est-ce que je dois dire, sous prétexte que la verticale est une notion relative, que la verticale est un concept qui n'a pas de sens? Non, à mon avis non. Puisqu'il est universel qu'en tout point à la surface de la Terre, je peux définir une verticale. En tout point de la surface de la Terre, je peux définir une verticale. Et donc ce qui est universel, ça n'est pas la verticale elle-même. C'est le fait que tout point à la surface de la Terre en possède une. Après, pour le temps, n'est pas absolu, il est relatif. Mais tout objet massif se voit doté d'un référentiel auquel on peut associer un temps propre. Donc il est universel que toutes les particules massives soient dotées d'un temps propre. Est-ce que ça autorise à dire que le temps n'existe pas ? Non.
Et je laisse la question à la salle, la parole à la salle, mais ça c'est une réponse à une question que je voulais poser sur quel est le lien vous faites entre cours du temps et temps propre.
C'est la même chose. Il n'y a pas un cours du temps universel absolu. Tout référentiel massif est doté d'un temps propre qui a une dynamique dont l'origine à ce jour n'est pas identifiée. On pourrait dire que c'est une dynamique qui est constatée, qui est sans doute un effet de la causalité, en tout cas tous les gens qui travaillent là-dessus, mettent la causalité. Alors la causalité, c'est pas le fait que tout événement a une cause qui le précède, hein, c'est pas la notion de cause en physique, c'est mort depuis longtemps avec la physique quantique, on parle plus de cause. Donc quand on parle du principe de causalité, on parle d'un principe qui est épuré l'idée de cause. En fait, le principe de causalité dit simplement, une sorte de trivialité, ce qui a eu lieu, a eu lieu. Voilà. Ce qui a eu lieu, a eu lieu. Si un événement a eu lieu, même s'il n'y a pas de témoin, même si on ment, même si on annule les effets produits par cet événement, il demeurera éternellement vrai que ça a eu lieu. C'est tout. Donc c'est presque une vérité de la balise. Et il se trouve que cette contrainte, c'est ça qui est extraordinaire, cette contrainte, quand vous la mettez dans les équations, qu'il s'agisse de celle de Newton, d'Einstein ou d'autres, vous dites, mes équations doivent respecter la causalité. Ben, c'est des implications incroyables, incroyables. Songez que Dirac, Paul Dirac, en 1928, travaille là-dessus à une équation qui unifie la relativité restreinte et la mécanique quantique. Il en trouve une. Et il voit que si cette équation respecte la causalité, ça implique que toute particule soit associée à une particule de même masse, de charge électrique opposée, qui va appeler une antiparticule. Et en 1932, dans Rayonnement cosmique, on trouve l'antiparticule de l'électron qui s'appelle le positron. C'est quand même incroyable, une équation qui prédit à partir de la contrainte de causalité. Donc vous pourriez dire la causalité, en fait, c'est une loi produite par l'entendement. On trouve cette idée un peu chez Kant. C'est la causalité qui est dans notre cerveau que nous projetons sur le monde. Très bien. Il y a quand même là un truc. On a envie de dire que la causalité, c'est pas simplement une loi produite par l'entendement, mais c'est quand même une loi du monde. Puisqu'en la mettant dans les équations, on prédit des objets qui font clic dans un détecteur. Enfin, à l'époque, ils ne faisaient pas clic. C'était des chambres à bulles, enfin des chambres de Wilson, ce n'était pas clic. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quand même impressionnant. Et moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Clément Rosset, qui vient de disparaître, comme vous savez. Et Clément Rosset citait souvent une phrase de Paul Claudel, qui est à la fois très banal et très puissant. Paul Claudel disait « Les choses qui existent sont importantes. » Les choses qui existent sont importantes. Et donc, on ne peut pas constamment décorréler la pensée du savoir. Je sais bien que philosopher, c'est penser au-delà de ce qu'on sait. Très bien. Mais on doit aussi dans son propre champ, quand les questions sont concernées par le savoir, ne pas ignorer ce qu'on sait dans la façon de penser. Vous voyez, je suis quand même très diplomate.
Est-ce que vous avez des questions?
S'il n'y a pas de sujet, il n'existe pas de temps.
Dans le cas de
S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de temps. Ça va quand même.
C'est ce que vous pensez. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de temps.
Oui.
Ben, non, mais j'entends tout à fait. Hein. On peut penser que sans sujet, il n'y a pas de temps. Mais alors, comment de la durée a-t-elle pu s'écouler avant qu'apparaissent les sujets qui créent le temps? Voilà. C'est une question un peu naïve, mais elle se pose parce qu'il faut une forme de cohérence logique. Si c'est le sujet qui crée le temps, c'est-à-dire qu'avant votre naissance, d'abord quand on parle du sujet, on parle de quel sujet? Une conscience individuelle? Ça ne me paraît pas très clair. Est-ce que le temps, c'est vraiment la finitude du deadline, pour parler comme Heidegger? Si je meurs, la conscience que j'ai du temps va sans doute cesser. Mais est-ce que ça va faire cesser le temps même?
Si.
Je crois pas.
S'il y a des suis même souillé de hier. Il a dit hier, il a dit aujourd'hui, présent et indicatif, prétérito. Mais je suis le même souillé. C'est à quoi correspond.
Oui, vous êtes le même sujet qu'hier, mais pas forcément dans le même état. L'identité du moi, c'est quand même une question philosophique pour le coup très compliquée. Qu'est-ce qui fait votre identité au cours du temps? Sachant que vos cellules, alors je ne vais pas donner tous les chiffres, mais pour des raisons compliquées, je connais certains par cœur. Le temps de renouvellement de vos cellules, donc globules rouges et autres, il est assez court. Donc vous êtes un bateau de Thésée, en fait. Vous êtes un bateau dont les planches sont constamment renouvelées. Et votre identité est maintenue alors même que votre constitution est sans cesse renouvelée. Ce qui pose quand même de façon intéressante la question du moi. Sur quelle stabilité se tient le moi?
Si on dit réduire le moi et le l'identité être, réduire le moi, réduire le temps de moi à sa minima expression pour faire une extension dans l'être.
Oui.
C'est possible.
Oui, non, c'est. Non, moi, je vous dis, hein, je suis d'une grande ouverture d'esprit. Mais, penser, c'est penser contre soi. Comme disait Alain, c'est-à-dire, c'est quand même interroger ce qu'on pense pour voir si ça tient. Et il faut donc affronter les paradoxes. Comme l'a dit Jérôme, il y a des paradoxes qui apparaissent autour du physicien. Il y a des contradictions entre les théories. L'espace-temps de la mécanique quantique, c'est pas l'espace-temps de la réalité générale. Donc, la physique, elle est intrinsèquement contradictoire pour ce qui est du statut qu'elle donne à l'espace-temps dans des contextes différents. Voilà, donc il y a des paradoxes. Et inversement, dire le temps est une production du sujet, c'est une thèse intéressante. Mais il faut affronter les questions qu'elle pose.
Pour les deuxième principe de la thermodynamique du groupe Clausius, il n'y a pas de réversibilité. Vous pouvez clarifier ce point correspondance et référence à la réversibilité, à le concept de réversibilité.
Alors c'est une très bonne question, parce qu'en effet, une des explications de la flèche du temps, c'est ce qu'on appelle la croissance de l'entropie. C'est-à-dire qu'un système fermé va évoluer d'une façon telle que son entropie va forcément augmenter, ce qui va rendre son évolution irréversible, puisque l'entropie ne peut qu'augmenter. Donc il ne pourra jamais retrouver dans le futur l'état initial où l'entropie était plus faible. D'accord ? Le point important, et c'est ça qu'il faut bien intégrer, parce qu'il y a eu des confusions, notamment, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour lui, regardez par Prigogine. Voilà. Prigogine dit les physiciens nient le temps parce que leurs équations sont réversibles. Mais pas du tout. Dire que les équations sont réversibles, c'est pas nier le temps. Au contraire, dire qu'on peut changer t en moins t sans que les équations changent, c'est pas dire qu'on peut changer le sens des moments du temps et retourner dans le passé. Pas du tout. Ça dit simplement que le choix du sens du cours du temps est arbitraire. Mais c'est pas parce que le choix du cours du temps est arbitraire que le cours du temps lui-même est arbitraire. Je veux dire par là que, prenez l'exemple de l'électromagnétisme. Prenez, il y a des charges positives, des charges négatives. On a dit que les électrons avaient une charge négative. Les protons, une charge positive. Il y a une loi qui dit que deux particules de charge opposées s'attirent. Mais vous voyez que cette loi, elle est indépendante de la convention qu'on a prise sur le choix des signes des charges électriques. Si j'avais décidé que le proton a une charge négative et l'électron une charge positive, le choix est arbitraire, donc je fais ce que je veux. Si j'avais changé la convention, ça ne changeait pas la loi. Autrement dit, les équations réversibles de la physique ne nient pas le temps, par contre, elles nient le devenir. Elles ne nient pas le cours du temps, elles nient la flèche du temps. Elles disent qu'il n'y a pas de flèche du temps. Et là où, si vous voulez, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle, c'est quand on dit, mais la croissance de l'entropie serait le montant du temps. Mais non. Non. Pour dire la croissance de l'entropie, il faut déjà définir un temps qui passe au sein duquel l'entropie augmente. Alors, c'est ça le truc. Et moi, je bondis quand je vois des livres, il y en a tout le temps qui paraissent, où on nous dit, le problème de la fin du temps consiste à comprendre d'où vient qu'on ne se souvient pas du futur. Moi, ça me rend fou. Pourquoi on ne se souvient pas du futur? Parce qu'on n'y a jamais été présent. Autrement dit, la réponse à cette question, ce n'est pas du tout la flèche du temps, c'est le cours du temps. Et le fait qu'on ait constamment mélangé flèche du temps et cours du temps, vous verrez dans les ouvrages, tout le monde mélange. On confond les deux irréversibilités. Alors que si on prend la physique au sérieux, il faut les distinguer. Et quand elles sont distinguées, alors pour le coup, ça produit un nettoyage de la situation verbale. On est plus précis dans la façon de parler de ces questions.
Oui, moi j'ai une question à propos de Husserl, qui je crois était mathématicien, et donc je voudrais savoir comment justement c'est, on tient compte ou on réfléchit par rapport au travail qu'il a pu faire sur l'origine de la géométrie, ou enfin, étant donné qu'il a fait la passerelle avec la philosophie et que ça a donné d'ailleurs ensuite à Heidegger, qu'en est-il de ces...
Husserl était vraiment mathématicien?
Je crois bien.
C'est pas Husserl?
Non, je crois que c'est... Alors, je vais regarder sur Wikipédia.
Mais non, mais il a fait des mathématiques. Alors, moi, je pense que dans sa phénoménologie, il y a la volonté de comprendre comment, justement, des instants qui, physiquement, s'excluent mutuellement, peuvent cohabiter dans la conscience. D'accord ? En fait, il y a de la rétention, comme il dit, et de l'attente. Il prend l'exemple d'un morceau de musique. Un morceau de musique, c'est un, par rapport à une suite de sons quelconque, de bruit, c'est une succession de notes au sein de laquelle la causalité est internalisée. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la cause de la note qui advient, c'est la note qui vient d'advenir. Comme si la relation causale était à l'intérieur même de la succession des sons, alors que la vraie cause, on sait, c'est l'instrument extérieur qui produit cette suite. Mais on entend la musique comme une succession avec une causalité internalisée, et le travail de Husserl, enfin sa contribution, c'est de montrer comment la conscience, justement, le temps subjectif, parvient à faire cohabiter, dans un intervalle qui vaut, je crois, quelques millisecondes, des instants qui ne collisent pas. Par exemple, si je prends mon doigt là et je le promène devant mon visage à cette vitesse-là, vous faites de vous-même, vous l'avez déjà fait, vous voyez l'intégralité de la trajectoire. Ça veut dire que votre perception de ce phénomène temporel juxtapose dans votre vision des positions qui n'existent pas ensemble en vérité, mais que vous voyez cohabiter. Et donc ça veut dire que la conscience fait une sorte de lissage du cours du temps qui fait que le présent subjectif est beaucoup plus épais que le présent objectif. Alors, pourquoi la géométrie l'a aidé à... Ça, je ne peux pas vous dire.
C'est assez proche de la façon dont Bergson définit la durée aussi.
Oui, oui.
Comme à ceci près que Bergson critique justement... le fait de projeter dans l'avenir cette juxtaposition, cette rétention dans le passé qui constitue la durée. Quand on la projette dans l'avenir, on va...
Chez Kant, il y a la même idée. Hein. Kant dit, c'est pas son vocabulaire, mais en gros, le moteur du temps chez Kant, c'est la causalité, mais pensée non pas comme une relation temporelle, mais comme une relation logique. La relation de cause à effet est une relation logique. Logique. Et comment elle se manifeste? Ben, grâce au temps qui va la temporaliser, qui va la faire s'organiser en phénomène, alors qu'au départ elle est logique. Et donc, je dis mal, mais en gros, chez Kant, c'est la causalité qui induit le cours du temps. Je pourrais vous citer des phrases qui disent à peu près ça. Et ça rejoint un peu d'ailleurs la thèse de Alain Cohn. Évidemment, il faut remanier tout ça, mais ce que ça a remarqué Alain Cohn, il n'est pas le premier à l'avoir remarqué, mais il est le premier à l'avoir utilisé dans ce projet-là, c'est que ce qui distingue la physique quantique de la physique classique, c'est ce qu'on appelle la non-commutativité. C'est-à-dire que AB n'est pas égal à BA. D'accord ? L'angle dans lequel vous faites une mesure, par exemple, si vous mesurez la vitesse d'une particule puis sa position, vous n'obtenez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord la position, puis la vitesse. L'ordre n'est plus indifférent. Et ce qu'a montré Alain Cohn, avec des géométries non commutatives, c'est que cette non-commutativité introduit un ordre. Et cet ordre est dynamique et peut engendrer ce qu'on appelle le cours du temps et de sa même échelle. C'est-à-dire le cours du temps, serait émergent. Il surnagerait au-dessus d'un inframonde dans lequel il n'y aurait que des relations causales. D'ailleurs, c'est marrant qu'un inconnu que je connais bien, il est fasciné, comme moi, par les anagrammes. Pour les anagrammes, c'est la même chose. Ce qui fait qu'il y a des anagrammes, c'est le fait que la position des lettres n'est pas différente. Si vous mettez AP dans un mot, et si vous inversez l'ordre, c'est BA, ça change le mot. Ça change le mot et ça change le sens. D'accord ? Et donc, il y a une sorte de lien qu'on peut faire entre anagrammes, physique quantique, et physique classique et commutativité. Je ne suis pas très clair, mais en gros, c'est des pistes intéressantes et Alain Cohn, il est persuadé qu'il est en passe de résoudre la question de retour du temps.
Et donc,
à partir de considérations géométriques.
Vous acceptez de voir du coup le cours du temps comme étant un phénomène émergent et non pas le cadre dans lequel
Non, mais dans les théories physiques opératoires, c'est un cadre qu'on pose. Et dans celles qui se construisent, il y a un statut émergent. On parle même de thermodynamique de l'espace-temps. On peut même introduire la notion de température de l'espace-temps. Donc on a un phénomène qui émerge à une certaine échelle, un peu comme la température. Et on a donc un statut qui ressemble à celui que Leibniz donnait au temps, c'est-à-dire non pas un substance, mais une relation.
Eh bien, je crois qu'il est temps de conclure et de vous remercier encore, Diane, pour cette très belle conférence et ces très belles réponses aux questions posées par la salle. Un grand merci.
Merci à vous.